بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 8 du mois de Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous étudions ensemble le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et on arrive vers la fin de ce livre très bénéfique, très profitable. Je ne sais pas combien de temps on a mis, lakin aujourd'hui nous allons étudier ensemble un chapitre très important, le 60e chapitre de ce livre, qui concerne une notion importante dans la foi. C'est la foi au destin. La foi en la prédestinée. C'est un domaine dans lequel il y a eu énormément d'égarements. C'est une notion assez simple à comprendre si on la comprend comme les sahaba l'ont comprise. Et rentrer dans le destin et le décret, ce sont les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin, c'est les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle, comme Allah dit dans le Coran, « La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun ». Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Et c'est nous qui serons interrogés. Mais cette notion, comme vous allez le voir, elle est assez simple à comprendre. Si on la comprend comme l'ont comprise les compagnons, qu'Allah les agrée, et tous ceux qui les ont suivis fidèlement jusqu'à notre époque. Lakin, ceux qui ont fait rentrer la philosophie grecque dans ce domaine, comme ils l'ont fait rentrer dans le domaine des noms et des attributs, ça a donné lieu à des graves égarements. Taïb, il a dit « Babu ma ja'a fi munkir al-qadar ». Donc, dans ce premier chapitre, où il a dit Babu ma ja'a fi munkiri al-qadar. Donc, ce qui a été rapporté au sujet de ceux qui ont renié le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas cru au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa prédestinée. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, pour argumenter, bien évidemment, l'objectif et le but de l'étude de ce chapitre, c'est d'abord de comprendre cette notion du destin. Et aussi de connaître, yani son jugement, le jugement d'avoir la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala en son destin. Et également de connaître la mise en garde et la menace qui a été rapportée dans les textes par rapport à ceux qui ont rejeté cette notion et qui n'ont pas cru au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah a cité un athar, une parole qui a été rapportée de Abdullah ibn Umar, le grand compagnon, qu'Allah l'agrée. Il a cité hadith Ubada radiyallahu anhu. Dans ce dialogue et cet échange qu'il a eu avec son propre fils, et on va voir une faïda très importante, j'espère que je ne vais pas l'oublier, en mentionnant ce hadith dans l'éducation des compagnons à leurs enfants. Comment les sahaba éduquaient leurs enfants. Et ensuite, il a cité un athar, un autre récit d'un autre grand compagnon qui est Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Il a dit « Babu ma ja'a fi munkir al-qadar » chapitre sur ce qui a été rapporté au sujet de ceux qui nient le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma » Donc ibn Umar qu'Allah l'agrée lui ainsi que son père a dit. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Donc Ibn Omar رضي الله عنه a dit: je jure par celui qui détient l'âme de Ibn Omar dans sa main. Donc il a juré par Allah. Et cette parole de Ibn Omar a une petite histoire, c'est que deux hommes qui sont venus, c'est pas des compagnons, ce sont des tabi'in, qui sont venus de la ville de Basra. Et ils ont constaté un phénomène nouveau qu'ils n'ont jamais vu chez les compagnons qu'ils ont connus. Malgré eux, ils ne sont pas des compagnons, ce sont des tabi'in. Ils ont vu un phénomène nouveau pour eux. Et regardez là aussi un autre enseignement. Quand tu apprends une chose nouvelle, une chose bizarre, une chose qui ne correspond pas à ce que tu as déjà connu de ta religion, comment tu dois agir? Tu dois chercher à avoir ton propre avis ou tu dois revenir vers les hommes de science? Normalement, tu dois revenir vers les hommes de science et prendre leurs avis et que ce soit une lumière qui t'éclaire par rapport à ces sujets-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux hommes quand ils ont vu d'autres personnes dans la ville de Basra qui avaient des attitudes étranges par rapport à la foi au destin? Ils ont cherché à rencontrer un compagnon. Et celui qu'ils ont pu rencontrer, c'était Abdullah ibn Omar. Ils lui ont dit, voilà, il y a des gens chez nous qui demandent la science. C'est des gens qui sont très assidus dans la demande de science. يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ. Ce n'est pas des ignorants. C'est des gens qui sont très très assidus dans la demande de science. Mais en général, ce n'est pas des gens qui ont appris avec les compagnons. Ils n'ont pas pris la science des hommes de science. Et ce phénomène, vous le trouvez également chez des gens qui ont pris la science des livres et qui ne l'ont pas prise des savants. En général, ils peuvent avoir des compréhensions qui leur sont spécifiques, propres à eux. Ils comprennent à sa manière. Et ils n'apprennent pas l'adab de l'ulama. Quand tu apprends avec l'ulama, tu apprends la modestie. Tu apprends à rester à ta place. Tu apprends que tu connais quelque chose, mais tu t'ignores beaucoup plus de choses. Et tu apprends à accuser ton propre avis et ton propre opinion. Tu dis que les ulama, ils ont plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont plus de science que moi. Et c'est d'eux que j'ai pris la science. Donc, si j'ai un avis différent de l'avis des hommes de science, je vais accuser en premier ma compréhension. Et non pas critiquer les ulama et dire que c'est des savants, des gouverneurs, ils ne font que dire que ce que les gouverneurs leur disent, comme disent les égarés et les sectaires. Tu vas toujours garder une bonne opinion de l'ulama. Et on parle bien évidemment de ulama al-sunna wal-jama'a. On parle des savants de la sunna et du consensus. Donc c'est ce que ces deux hommes ont fait. Et ils ont rencontré un parmi les grands savants, des compagnons. C'est un jeune compagnon, lakin après la mort des premiers dans l'islam, lui ainsi qu'Abdullah ibn Abbas, qui sont des jeunes compagnons, sont devenus les références dans la science. Ainsi qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, tous ses compagnons, c'était des jeunes, lakin ils ont pris le relais après la mort et la disparition des grands savants, des compagnons et des premiers dans l'islam, comme Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, et c'est ça notre devoir. Il faut qu'on apprenne la religion pour prendre le relais après la disparition de l'ulama. Et surtout à cette époque où vous voyez que l'ulama, ils partent l'un après l'autre. Il y a peu de temps est décédé Cheikh Al-Allama Salih Al-Haydan, Cheikh, avant lui un petit peu, Cheikh Ahmed Ben Yahya Al-Najmi, Cheikh Zayd Ben Hadi Al-Madkhali, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz. Il n'y a pas longtemps, Cheikh Rabi', juste un peu avant lui, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, la plupart des grands savants partent. Et malheureusement, il n'y a pas, yani pour les remplacer, on ne trouve pas les mêmes savants et on ne trouve pas le même nombre. Yani, après la disparition d'une dizaine, on trouve un seul homme de science qui reste, ou la deux, ou la trois. Et ça, c'est une époque de laquelle Nabi Sallam nous a parlé dans plusieurs hadiths, parmi les signes précurseurs de la fin des temps. Yani, la disparition des hommes de science et que ces savants, ces savants vont être remplacés par des têtes ignorantes. حتى إذا لم يبقى عالم إذا لم يبقى إذا لم ي... إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال إنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Quand il ne restera plus de savants, ça ne veut pas dire que les savants vont disparaître tous. Il restera toujours des savants pour établir l'argument d'Allah sur ces créatures. لكن tu peux trouver un seul, ou la deux, ou la trois, dans un pays en entier. Alors que le Médina, seulement à Médine, il y avait des milliers de ulama. Des milliers de ulama à l'époque de l'imam Malik. Dans une ville seulement. Et regardez aujourd'hui à notre époque, dans un pays musulman, arabophone, tu peux trouver très très peu de ulama. Wallah al-musta'an. D'où l'importance d'apprendre la religion, afin de prendre le relais et de transmettre cette religion avec fidélité, comme on l'a reçue d'eux. Et quand ils l'ont interrogé, ils lui ont parlé de ces gens-là, il a cité cette parole. Ces gens-là, en résumé, ils disaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce que ça arrive. Ça veut dire qu'ils ont nié un degré du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons voir parmi les quatre degrés, qui est le premier degré, la science. Allah, sa science est éternelle. Il a toujours tout su. Il sait ce que tu fais, ce que tu vas faire avant que tu ne sois créé. Il l'a toujours su. Il sait même ce que tu ne vas pas faire si jamais tu l'avais fait, comment tu l'aurais fait. Allah, il sait tout. Ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux pas imaginer. Lakin, ces gens-là, ils disaient, Allah, il ne sait pas. Et ça, c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Nier la science d'Allah, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça, Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'il leur a dit dans cette parole? Il leur a dit, je jure par celui qui détient l'âme d'Ibn Umar dans sa main, que si l'un d'entre eux, ces gens-là qui demandent avec assiduité la science, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de la montagne de Uhud en or et qu'il le dépensait dans le sentier d'Allah, Allah ne l'acceptera pas de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Pourquoi Allah ne l'acceptera pas de lui jusqu'à croire au destin? Parce que Allah n'accepte que des croyants. Et celui qui ne croit pas au destin, qui est un pilier de la foi, il a mécru. Allah n'accepte rien du mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des croyants. Comme il a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. الْمُتَّقُونَ, ce sont les muwahhidin, ceux qui ont tawhid, qui ont la foi. Allah, il accepte des vertueux et des pieux. Là, ce qui est voulu ici par le muttaqin, c'est ceux qui ont tawhid. Yani, en autre terme, les muslimines. Celui qui est sorti de l'islam, Allah n'accepte rien de lui. Tout le bien qu'il aura fait durant sa vie, il sera récompensé avec pendant sa vie, avec tout ce qu'Allah lui donne. Lakin, quand il rencontrera Allah, il ne trouvera rien. Comme Allah dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Il a dit, وَأُولَٰئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. Cela ne rend dans l'au-delà que le feu de l'enfer. Et c'est pour ça que les hommes de science ont divergé au sujet du mécréant, celui qui meurt mécréant. Est-ce qu'il sera jugé ou pas? Beaucoup de savants disent qu'il ne sera même pas jugé, il sera conduit directement en enfer, lui ainsi que ce qu'il adorait. Donc il a dit jusqu'à ce qu'il croit au destin. Et il s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur le hadith que lui a enseigné son père Omar ibn al-Khattab. Ce qu'on appelle hadith Jibril alayhi salam. Ce hadith magnifique que les savants appellent Ummu Sunnah. De la même manière que nous appelons Surat al-Fatiha, la meilleure surah dans le Coran, nous l'appelons Ummu al-Quran. La mère de le Coran, dans le sens que tout le Coran revient à cette surah. Tous les sens que tu as dans le Coran détaillés sont cités d'une manière globale dans Surat al-Fatiha. De la même manière, tout ce qui est cité dans la Sunna, tu le trouves dans Hadith Jibril alayhi salam. Quand Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme, bien habillé, et il s'est assis devant le prophète alayhi salam, il lui a posé les questions au sujet de l'islam, au sujet de la foi, au sujet de la bienfaisance et au sujet des signes précurseurs de la fin des temps. Et le Nabi alayhi salam, à chaque fois, il répondait. Et Sahaba qui s'étonnait, il répond, il questionne, et après il lui dit, t'as dit vrai. Normalement, celui qui ne sait pas, il ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas. Lakin, il approuve les réponses du prophète alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam, à la fin, leur a dit, ça c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'est pour ça, poser des bonnes questions, c'est une manière d'apprendre la religion, et même quand tu connais la réponse, c'est une manière d'enseigner la religion aux autres. Quand tu apprends une question, quand tu apprends une faïda, un enseignement, à travers une question, en général, tu ne l'oublies jamais. Contrairement à si je m'assois devant vous, je commence à vous raconter, parler, en général, vous allez retenir que très peu. Lakin, si vous posez une question et quelqu'un qui vous répond, en général, tu retiens, car ça va te marquer. Tu es concerné. La façon de poser la question, la façon de recevoir la réponse, tout ça, ça va être des moyens mémotechniques qui t'aident à retenir. C'est pour ça que le sahabi qui cite un hadith et dans lequel il va citer des détails, il m'a parlé en étant assis sur son lit et il avait ça de sous la tête ou de la hadith. Ça, c'est des choses qui indiquent qu'il a bien maîtrisé ce qu'il rapporte. Et ensuite, il leur a cité le hadith de Jibril alayhi salam, dans lequel le prophète alayhi salam a défini la foi. Il a dit « Al-imanu an tu'mina ». C'est quoi la foi? C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et de croire au destin bon et mauvais. Tout provient d'Allah. Nous disons bon et mauvais, et on va comprendre ce que ça veut dire bon et mauvais. Quand on dit le décret d'Allah, le destin d'Allah, bon et mauvais, il y en a qui préfèrent éviter cette traduction et donner une autre traduction qui te rapproche déjà le sens. Ils disent convenable et inconvenable. Le destin qui te convient. Le destin bon, en réalité, c'est ce que tu aimes. La santé, la richesse, les enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des voitures, d'avoir une maison. Tout ce que tu aimes, c'est le bien par rapport au destin. Et le mal, c'est les choses que tu n'aimes pas. La maladie, la pauvreté, le fait d'être éprouvé par la stérilité, ne pas avoir des enfants, être locataire, ou chez Hajab Halka, ou là, ne pas avoir de toi du tout. Le destin, mauvais. Il est mauvais par rapport à la créature. Par rapport au serviteur, il n'aime pas ces choses-là. Si tu lui donnes le choix entre la maladie et la bonne santé, il préfère la bonne santé. Tous en est comme ça. Donc, là, quand ça arrive, on sait qu'Allah l'a voulu. Donc, on l'accepte. Ça, c'est le degré minimum. Et obligatoire. Et après, on peut arriver à un degré supérieur d'être satisfait. Et encore un degré supérieur à celui-là, qui est d'être reconnaissant par rapport à un malheur par lequel t'es touché. Et ça, t'y arrives avec la science. Si Allah nous permet, je vais citer quelques points qui permettent d'arriver à être reconnaissant par rapport à une épreuve et à un malheur par lequel tu es touché. Lakin, le degré obligatoire pour tous, quand ça arrive, tu te dis Allah l'a voulu, Allah l'a décrété, donc j'accepte. C'est ce qu'on appelle sabr, l'endurance et la patience. Sabr, linguistiquement parlant, tu vas te retenir, l'emprisonnement. Comme si tu vas emprisonner ta langue et la retenir d'exprimer une forme de rébellion et de rejet. Tu vas retenir ton cœur d'avoir une forme d'insatisfaction et de mécontentement. et tu vas retenir tes membres de faire quelque chose qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as été touché par ce malheur. Comme les femmes qui se griffent le visage ou se déchirent les vêtements suite à la mort d'un proche, ou là qui pleurent jusqu'à hurler, ou là des choses comme ça. Donc, toujours rappelez-vous que la foi, comme la mécréance, c'est au niveau de la langue, le cœur et les membres. La foi, c'est sur les trois. La mécréance également. Quelqu'un peut mécroire avec une croyance qu'il a dans le cœur, sans jamais rien faire. Et il peut mécroire avec une parole qu'il prononce avec la langue, comme insulter Allah. Il peut mécroire avec un geste. Il jette le livre d'Allah, le Coran, tout en sachant que c'est le Coran, en voulant l'humilier. Ou là, comme font les sorciers pour devenir un sahir, il met le Coran dans ses chaussures, il rentre avec dans les toilettes, il s'essuie avec, des choses extrêmement graves pour attirer vers lui les shayatin et qu'il soit satisfait de lui. Car shayatin ne collabore avec un sorcier jusqu'à ce que la foi sorte complètement de son cœur. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ne m'y crois pas. Et c'est quand il va m'y croire qu'ils vont collaborer avec lui. C'est pour ça que le kuffar, ils disent, il a vendu son âme au diable. Et c'est vrai. Ce sens est vrai. طيب. Et elle est, qu'est-ce qu'elle est belle la parole de l'imam Ahmed quand il a été interrogé au sujet de l'qadr. L'imam Ahmed, quand il a été interrogé au sujet du destin, il a dit, ils lui ont dit, yani, c'est quoi le destin? Il a dit, le destin, al-qadaru, qudratu al-rahman, c'est l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tout miséricordieux. Naam. Al-Qadr, c'est ce qui montre yani, la, que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Et c'est lui qui a tout décrété. Il ne peut rien arriver sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut arriver contre la volonté d'Allah. Les gens peuvent faire des choses contre la volonté religieuse d'Allah. Allah, il ne veut pas qu'on boive l'alcool. Lakin, on peut trouver des gens qui boivent l'alcool. Donc, ils vont à l'encontre de la volonté religieuse. Mais personne ne peut aller à l'encontre du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa volonté universelle. On l'appelle comme ça, l'irada al-kawniya, sa volonté universelle. Rien ne sort du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, a toujours tout su. Et ça, ça nous fait... Ça me fait penser aux 4 degrés de la foi au destin. Comment tu peux avoir la foi complète, la foi juste par rapport au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est très simple. Il faut savoir que chaque chose qui est créée, elle passe forcément par 4 étapes. Ton existence à toi. Toi, tu es là devant, tu es assis. Tu es une créature. À chaque fois que tu vois une chose créée, que ce soit un être humain, un animal, une parole, un geste, une action, une chaise, une maison, chaque chose qui est créée, forcément elle est passée par ces 4 degrés, ces 4 étapes. Premièrement, le degré de la science. Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient. Il a toujours tout su. Et rien n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier degré. Le deuxième degré, Al-Kitaba, l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, il a créé Al-Qalam, la plume. Et il lui a ordonné d'écrire. Elle a dit, oh Allah, qu'est-ce que je vais écrire? Il lui a dit, écris ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Et tout ça a été mis par écrit dans Lawh al-Mahfoud. Les tablettes bien gardées. Oula, la tablette bien gardée. Al-Lawh al-Mahfoud. Ce livre dans lequel tout est écrit dans les détails les plus précis. Tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, quand Allah il veut la chose, ce qu'on appelle al-mashi'a, la volonté d'Allah. Donc, Allah a toujours tout su. Il a ordonné que ce soit mis par écrit 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Et ensuite, quand Allah a voulu que tu viennes ici. Quand Allah a voulu que tu viennes ici. Donc, il l'a voulu. Après, ça s'est passé. C'est-à-dire, il l'a créé. Donc, les quatre degrés, al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wa al-khalq wa al-ijad. La science, l'écriture, la volonté, l'existence et la création. La création et l'existence de la chose. Donc forcément, toute chose passe par ces quatre étapes. Et avoir la foi en ces quatre étapes, ça valide ta foi au destin et au décret d'Allah. Lakin, comme dans toute chose, il faut savoir qu'il y a un minimum qui valide ta foi par rapport à ce point. Après, les gens, ils n'ont pas tous le même degré de foi par rapport au décret d'Allah. Et ça, on va le voir. C'est pour ça, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, « La an a'adda ala jamratin hatta tabrad ahabbu ilayya min an aqula li shay'in qad qadahu Allah laytahu lam yakun. » Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des plus grands compagnons du prophète, alayhi sallam, et un des plus grands savants des compagnons. C'est un homme qui a mémorisé 70 sourates de la bouche du prophète alayhi salam directement. C'est un homme qui connaît chaque verset du Coran, qui a mémorisé le Coran en entier pendant le vivant du prophète alayhi salam. Et le nombre des compagnons qui ont mémorisé le Coran en entier pendant le vivant du prophète alayhi salam, yani c'est un petit nombre. Il y en a qui ont dit 6, il y en a qui ont dit 7, yani quelque chose comme ça. Et lui, il fait partie de ses compagnons qui ont mémorisé le Coran dans son intégralité pendant le vivant de Nabi alayhi salam. Et en plus, ce n'est pas une mémorisation comme la nôtre, comme à notre époque. C'est une mémorisation avec science. C'est-à-dire, tout ce qu'il va mémoriser, il va prendre toute la science qu'il y a dedans et il va le mettre en pratique. Et ils avançaient ainsi par 10 versets. Et Abdullah ibn Mas'ud, il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il sache quand est-ce que ça a été révélé, où ça a été révélé, et par rapport à quoi ça a été révélé. Il dit que je morde une braise de feu jusqu'à ce qu'elle se refroidisse, qu'il la mette dans la bouche, jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Vous imaginez une braise de feu si tu la mets dans la bouche? Il a dit ça, c'est préférable pour moi que de dire d'une chose qu'Allah a décrétée si seulement elle ne serait pas passée ainsi. Et ça, ça vous indique que les gens ne sont pas au même niveau par rapport au décret d'Allah. Cet homme, il ne peut pas s'opposer à un décret d'Allah. Ça arrive, Allah l'a voulu, il a l'acceptation, et l'agrément, et la satisfaction, et même le remerciement et la reconnaissance par rapport à ce destin. Bien évidemment, on parle du destin amer. Amma, le destin convenable, tous on l'aime. Qui n'aime pas avoir l'argent, avoir le flos, avoir la santé, avoir la possibilité de voyager, de manger des bons plats, nador ma al-krim, tout ça. Qui n'aime pas ces choses-là? Lakin, la question c'est, quand c'est quelque chose qui ne convient pas au serviteur. Quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas parce que, yani, il voit que la maladie, c'est un mal par rapport à certaines choses. Et c'est vrai. D'un point de vue, c'est un mal. Lakin, s'il avait plus de science, il aurait vu tellement de bienfaits et tellement de choses bénéfiques dans cette maladie qu'il aurait remercié Allah sur cette maladie. Il voit la purification de ses péchés. Il voit l'élévation de ses degrés. Il voit que quand il est en pleine santé, il commence à se rebeller, hein, ça le rappelle à l'ordre. Ça lui rappelle qui il est. Une faible créature. Un petit virus l'empêche de quitter son lit.
Une créature d'Allah qui ne voit même pas avec les yeux. Alors que dire le jour où il va être devant Allah avec tous ses péchés? Ça lui rappelle ces choses-là. Et c'est là où ça devient bénéfique. C'est pour ça, Hachi, quand on parle que le malheur est bénéfique, en général, c'est pour le croyant qui accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mal mécréant, s'il meurt mécréant, c'est un mal pour lui dans Dunya et dans l'au-delà. C'est un mal pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il est puni ici avant qu'il ne soit puni dans l'au-delà. Et s'il y a du bien en lui, Allah il le ramène à la vérité de cette manière. Combien de gens vous rencontrez qui sont devenus musulmans après la perte d'un proche, après avoir été touché par une grave maladie? Et c'est là où il s'assoit tout seul, il commence à réfléchir tranquillement, normalement, loin de CNews ou de Had, commence à chouiller à voir les choses comme elles sont réellement. طيب هذا هو le premier. Le deuxième c'est un hadith Ubadah radiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit, un des grands compagnons radiyallahu anhu. Il a dit à son fils: Ya bunay, il a dit ô fiston, إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. Lui a dit, tu ne trouveras pas la saveur et le goût de la foi. Et ça indique que la foi a une douceur, a une saveur. Lakin, ça ne se teste pas avec la langue, avec le cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas décrire cette saveur que quand tu vas la vivre. Ce bon goût de la foi, ce plaisir de la foi. Il a dit, tu ne goûteras pas à la douceur de la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a touché n'aurait jamais pu te rater. Quand une chose arrive, aie la certitude que jamais elle aurait pu se passer autrement. Pourquoi ? Nous, on ne connaît pas le destin d'Allah. Le destin d'Allah, c'est son secret. Tu ne sais pas ce que Allah a décrété. Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'il m'a décrété à moi? Allahu a'lam. On espère qu'il nous accorde le paradis. Lakin, on ne sait rien. Lakin, quand la chose arrive, c'est là où tu peux savoir avec certitude qu'Allah l'a voulu, Allah l'a décrété. C'est pour ça que tu dois savoir quand une chose te touche, que jamais elle aurait pu se passer autrement. Quoi qu'il arrive. T'es tombé malade? Wallahi, tu serais tombé malade. Même si t'avais mis ton manteau, là, pris des maltechnaud, tu serais tombé malade. Quand ça arrive. Lakin, avant que ça n'arrive, on fait les causes pour se préserver de la maladie et se prémunir de la maladie. Amma, quand ça arrive, là, c'est fini. Il n'y a plus de discussion. Et ce qui t'a raté, jamais il t'aurait touché. Yani, ce qu'il a dit à son fils. Et ensuite, il lui a dit, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, alhamdoulilah, je viens d'y penser. Après lui avoir donné ce point qui est une vérité. Est-ce qu'il lui a dit, c'est bon, je suis un compagnon, je suis parmi les premiers dans l'islam, je suis un très grand compagnon, ça te suffit? Non. Il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah. Et ça, c'est important dans notre éducation des enfants. De toujours les lier aux sources, le Coran et la Sunna. Même si tu lui donnes le jugement, tu lui dis parce que Allah a dit. Même s'il ne comprend pas le verset. Car il va comprendre que dans cette religion, on ne suit pas nos parents, ni nos grands-parents, ni les traditions de notre pays. L'islam d'Arabie Saoudite et l'islam du Maroc ou de l'Algérie. Wallahi, l'ajab le jeu. L'islam, il n'y a qu'un seul islam. Nous, on suit l'islam de l'imam Malik. C'est ça? Comme si l'imam Malik, il est né à Fès. L'imam Malik, il vient de Médine. Lakin, c'est des choses avec lesquelles ils essaient d'éloigner les gens de la vérité. L'islam, qu'Allah aime et agrée, il est unique. C'est un seul islam. C'est celui que pratiquait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant une semaine, il va pratiquer une certaine compréhension de l'islam, et la semaine d'après, il va pratiquer une autre compréhension de l'islam? Ou il était sur la même compréhension toute sa vie, jusqu'à ce qu'il a quitté ce monde? Et ses compagnons l'ont suivi sur la même voie, la même compréhension de l'islam. C'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. Et donc, il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi sallam dire, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. La première chose, il lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi sallam dire, la première chose qu'Allah a créée est le qalam. Donc ça, c'est selon une riwaya, une narration. On traduit comme ça. La première chose qu'Allah a créée, c'est al-qalam. Le qalam, yani la plume. Dans une autre riwaya, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama. Et l'autre, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalamu. Regardez à Ikhwa, une haraka va changer complètement le sens. Ça n'a rien à voir avec le sens que j'ai cité tout à l'heure. Donc si on prend le deuxième sens, en changeant cette haraka, qu'est-ce que ça donne? Une fois qu'Allah a créé le qalam. Dès qu'Allah a créé le qalam. Tout à l'heure, on a dit quoi? La première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam. Maintenant, on dit quoi? Dès qu'Allah a créé le qalam, il lui a ordonné d'écrire. Il a dit, Seigneur, mais que dois-je écrire? Il a dit, écris le destin de toute chose, jusqu'à ce que l'heure arrive. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, il a dit, « Ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Quiconque meurt sur autre chose que cela n'a rien à voir avec moi. » C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se désavoue de lui. Car l'égarement dans le destin peut être un égarement qui fait tomber dans une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Et donc là, ce n'est pas un désaveu complet. Et ça peut être quelque chose qui arrive à la grande mécréance, comme ceux qui disent « Allah ne sait pas ». Et ça fait sortir de l'islam, et donc c'est un désaveu complet. Un désaveu vis-à-vis d'un mécréant. Et donc il lui a dit la première chose qu'Allah a créée est le qalam. C'est ça, yani, par rapport à ce hadith. Il lui a dit la première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam. Donc, le qalam, est-ce que c'est la première créature d'Allah, le qalam? La réponse, non. Nous ne connaissons pas la première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le qalam, c'est la première créature par rapport aux créatures que nous voyons. Les cieux, les terres. Yani, avant de créer ces cieux et ces terres, Allah en premier a créé le qalam. Il l'a créé seulement 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Et Allah a toujours été un créateur. Et Allah a toujours été décrit par la création. Et Allah a toujours créé. Lakin nous connaissons ce que Allah nous dit de ses créatures. Et bien avant le qalam, Allah a créé le trône, l'arche, comme c'est rapporté dans d'autres textes. Allah a créé le trône bien avant la création de le qalam. Et le qalam, ou bien, nous disant, c'est que dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il lui a ordonné d'écrire. La deuxième compréhension, Allah l'a créé, c'est la première créature par rapport aux créatures que nous voyons, les cieux, les terres et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, le qalam, c'est pas la première créature d'Allah. Car Allah est éternel, il a toujours été décrit par la création. Sa création n'a pas commencé 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Ce point est d'une grande importance. Et il lui a dit, celui qui ne croit pas au destin, bon et mauvais, que tout est décrété par Allah. Allah le brûlera dans le feu de l'enfer. Il le brûlera dans le feu de l'enfer, ou bien il est menacé. C'est son égarement, ne le fait pas sortir de l'islam. Il est menacé par le châtiment dans le feu de l'enfer, comme tous ceux qui font les péchés, qui n'arrivent pas au degré de la mécréance. Et si son égarement arrive au degré de la mécréance, Allah le brûlera dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Et en dernier, il a cité Hadith al-Musnad an Ibn al-Daylami. Donc il a cité, selon Ibn al-Daylami, un tabi'i, ce n'est pas un sahabi. Ibn al-Daylami, il a dit, Ataytu Ubay ibn Ka'b, faqultu. Donc Ibn al-Daylami, qui est un tabi'i, c'est ceux qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les appelons les compagnons. Et tabi'in, c'est ceux qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète alayhi salam. Les compagnons sont tous dignes de confiance. Amma tabi'in et tous ceux qui sont venus après eux, nous devons étudier leur biographie et connaître leur intégrité et le degré de confiance que nous devons avoir vis-à-vis d'eux. Amma un compagnon, on ne cherche pas. Une fois qu'on a démontré que c'est un compagnon, ils sont tous dignes de confiance. Ils sont tous intègres. Donc Ibn al-Daylami a eu قال أتيت أبي بن كعب. Donc il est venu voir Ubay ibn Ka'b, un grand compagnon parmi les grands savants des compagnons. C'est le plus savant dans le Coran parmi les compagnons, Ubay ibn Ka'b. Et ses mérites sont très nombreux. Allah a ordonné au prophète عليه الصلاة والسلام de demander à Ubay ibn Ka'b de lui réciter sourate Al-Bayyina. Ubay ibn Ka'b, c'est lui qui a déduit par lui-même, par sa science et sa compréhension de le Coran, que Ayat al-Kursi, c'est le meilleur verset de le Coran. Il l'a déduit de lui-même. Et le Nabi a approuvé cette compréhension. Et il lui a donné un petit coup sur la poitrine, et il l'a félicité pour sa science. Radiallahu anhu wa arda. Il n'y a pas un ange dans les sept cieux qui ne connaît pas Ubay ibn Ka'b. Tous ils le connaissent. Ada Hua qui compte, un master connu, une célébrité de YouTube ou là de. Ça peut être une célébrité en enfer. Lakin Ada Hua qui compte. Ada, les hommes, ils sont connus par les anges, ils sont aimés par les anges et ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand Allah aime une personne, il ordonne à tous les anges de l'aimer. Et il lui place l'acceptation sur terre. Il est aimé par les gens, par les croyants. Amal. Rafida ou les innovateurs, peut-être ils vont le détester. L'imam Bukhari, il est détesté par les innovateurs. Il est détesté par Rafida. Ça compte pas. Lakin, il est aimé par tous les adeptes de la sunna. Et si quelqu'un n'aime pas l'imam Bukhari, ça c'est un signe qu'il ne fait pas partie de Al-Sunna Al-Jama'a. C'est pas possible. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Donc Ibn al-Daylami, il dit فقلت في نفسي شيء من القدر. Donc, il a eu quelques ambiguïtés au sujet du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit j'ai quelques doutes, quelques ambiguïtés au sujet ou quelques incompréhensions au sujet du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit je vais creuser moi-même, je vais avoir mon propre avis? Non. C'est pour ça, Yahya, nous disons suivre les pieux prédécesseurs. Et suivre les pieux prédécesseurs, ça consiste à revenir vers les savants de ton époque. Avant d'avoir ton propre opinion. Car si jamais tu as une opinion avant de revenir aux hommes de science, le jour où tu apprends leur avis, peut-être que tu ne vas pas l'accepter. Car ça devient une affaire personnelle. C'est pour ça, Al-Sunna al-Jama'a, parmi leurs caractéristiques, yastadilluna thumma ya'taqidun. Ils cherchent les preuves, ensuite ils basent leur croyance. Les innovateurs, ils ont déjà une croyance et après ils lui cherchent les preuves dans les textes. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à falsifier l'essence des textes pour les adapter à leur croyance égarée qu'ils ont eue déjà avant de prendre connaissance des textes. Le Khawarij, pour eux, les Sahaba, se sont égarés. C'est pour ça qu'ils les ont combattus. Et après, ils ont cherché des textes qui réconfortent. Qui les réconforte dans leurs égarements. Et tous les innovateurs, c'est ainsi. Al-Sunna, non. Je n'ai pas de position par rapport à un point jusqu'à prendre connaissance des textes. Qu'est-ce que Allah dit par rapport à ça? Qu'est-ce que son messager, alayhi salam, dit par rapport à ça? Et c'est là où je vais développer ma croyance. Amma, c'est pas moi, pour moi, par exemple, parmi les points très connus, c'est la position par rapport au gouverneur. Vous trouvez que l'ami qui n'a jamais étudié, il a une mauvaise position par rapport au gouverneur musulman. Automatiquement. Et ce n'est pas pour la religion et l'aïkhoa. Ne soyez pas leurrés. Ce n'est pas parce qu'il veut qu'il applique l'islam ou la charia. Non. C'est juste pour les biens, pour les richesses. Ils ne partagent pas les richesses avec nous. Ils ne les prennent que pour eux. C'est le problème qu'ils ont avec eux. C'est pour ça que l'imam Al-Hassan Al-Basri, quand il y a eu des gens qui ont voulu renverser le gouverneur de son époque, ils ont voulu son soutien. Ils lui ont dit, viens avec nous. Et quand il leur a dit, pourquoi vous voulez le faire? Est-ce qu'il vous empêche de faire la salat? Ils ont dit non. Est-ce qu'il vous empêche de faire le pèlerinage? Ils ont dit non. D'acquitter la zakat? Non. Il leur a dit, alors vous êtes des gens qui veulent dunya. Vous êtes des gens qui veulent dunya. Pas la religion. C'est pour ça, yani, par rapport au gouverneur, la position qu'on doit avoir par rapport au gouverneur musulman, je t'invite à aller lire dans l'authentique de l'imam musulman. Comme ça, tu ne dis pas, Cheikh Al-Albani, il est avec les gouverneurs, le Cheikh Ibn Uthaymeen, le Cheikh Ibn Baz. Va, yahi, directement vers l'authentique de l'imam musulman, le livre de la gouvernance, Kitab al-Imam, et lis les hadiths du prophète, al-Sallam. Et regarde la compréhension des savants de ces hadiths, malgré qu'ils sont clairs et explicites. Donc il est venu voir Ubay ibn Ka'b, et il lui a dit, par rapport à ces ambiguïtés qu'il a attrapées au sujet du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, dis-moi quelque chose qui m'aide à me débarrasser de ces doutes. Dis-moi quelque chose qui renforce ma foi au sujet du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Il lui a dit, si tu dépenses, si tu as l'équivalent de la montagne de Uhud, qui fait 7 km par 3, si tu as l'équivalent de la montagne de Uhud en or et que tu le dépenses dans le sentier d'Allah, Allah ne l'acceptera pas de toi jusqu'à ce que tu crois au destin. Car Allah n'accepte que des croyants. Et celui qui ne croit pas au destin, ce n'est pas un musulman. Et que tu saches que ce qui t'a touché ne t'aurait jamais raté. Et ce qui t'a raté ne t'aurait jamais touché. Et si tu meurs sur autre que cette croyance, tu seras du nombre des gens de l'enfer. Et ensuite, il est venu voir qui ? Abdullah ibn Mas'ud, le grand savant. Regardez comment il a choisi les plus grands savants des compagnons. Il y en a les sahaba, sont tous des hommes de science. Lakin, ce n'est pas les mêmes degrés. Abu Bakr, dans la science, ce n'est pas Omar. Omar, ce n'est pas Uthman. Uthman, ce n'est pas Ali. Et ainsi de suite. Il est allé voir Abdullah ibn Mas'ud. Il est allé voir Hudayf ibn al-Yaman. Il est allé voir Zayd ibn Thabit, celui qui a regroupé le Coran à l'époque de Abu Bakr et de Uthman. Il est allé voir tous ses compagnons, qui sont tous parmi les grands savants des compagnons. Yani, vous savez que les compagnons, il y en a qui étaient tout le temps avec le Nabi A.S. Il y en a qui venaient de temps en temps le voir. C'est pour ça que leur degré de science n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'il y a des compagnons que nous appelons les Hawariyin, ceux qui étaient souvent avec le Nabi A.S. comme les 10 annoncés au paradis, et qui sont aussi les 10 premiers dans l'islam. Comme ça, d'une manière générale, qui sont les 10 premiers dans l'islam. C'est pour ça que c'est les 10 personnes annoncées au paradis. Et ceux qui ont soutenu le prophète Islam à une époque où il n'y avait autour de lui que très peu d'hommes. Qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète Islam. Donc tous, ils lui ont donné la même réponse que Ubay ibn Ka'b. Et tous ont répondu de la même manière, car la source, elle est la même. C'est pour ça que les salafs, ils ont la même croyance par rapport à tous les points de la religion. Ils ont les mêmes croyances par rapport à tous les points de l'aqida, de la croyance et du dogme. Il n'y a pas de divergence entre les compagnons dans un seul fondement de la croyance. Aucune divergence. La divergence qu'il y a entre les compagnons, c'est dans les questions de l'fiqh. Halal, haram, recommandé, hadith. Ça, vous trouvez des divergences, et malgré cela, dans ces questions-là également, la vérité, elle est unique, comme a dit l'imam Malik. Al-haqq wahid. Et donc, ils lui ont donné la même réponse. Et c'est ça, yani, par rapport à ce point. Parmi les fruits d'avoir la foi au destin, comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit « Al-qadaru nizamu tawhid ». La foi au destin, c'est... Wallahi, je ne sais même pas comment traduire « nizam tawhid ». Nizam tawhid. Yani, dans le sens... Yani, nizam, c'est l'organisation, l'ordre. Là, qui ne sait pas ce qui est voulu. Yani, c'est comme ce qui orchestre l'unicité d'Allah. Si on peut l'exprimer comme ça, j'espère que vous allez me comprendre. La foi au destin, c'est ce qui permet d'avoir un tawhid complet et parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car celui qui croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci renforce son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que tout ce qui arrive, c'est avec le décret d'Allah. Donc il ne va pas dépendre des créatures. Il va revenir vers celui qui a tout décrété. Il saura que cette créature, tout ce qu'elle peut faire, ça rentre dans le décret d'Allah. Donc pourquoi revenir à elle et ne pas revenir directement au maître absolu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ça augmente sa soumission et son acceptation, sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et sa dévotion par la suite. Il arrive à des degrés de soumission très élevés. Yani, il suffit de lui dire que Allah a décrété cette chose-là pour qu'il la voie comme un bien et qu'il voie les sagesses, les nombreuses sagesses qui puissent y avoir. Et parmi les choses qui aident le croyant à arriver à ces degrés élevés dans la foi au destin, c'est de savoir qu'il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur ne s'oppose jamais à son maître. Que dire que quand ce maître, il a la sagesse absolue et la bonté parfaite. Et il choisit pour lui mieux que son choix pour lui-même. Il y en a déjà un esclave, ne s'oppose pas à son maître. Alors que dire que quand ton maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu n'acceptes pas son décret ? Également, le croyant, il délègue ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, quand tu délègues à quelqu'un une affaire, tu es en confiance. Parce que tu ne délègues pas à n'importe qui. Alors, que dire que quand tu délègues tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la miséricorde et la sagesse et la bonté absolue, subhanahu wa ta'ala. Également, de savoir que ce malheur par lequel tu es touché, ou là ce bien par lequel tu es touché, a été décrété par Allah. Et c'est son destin qui t'aurait touché dans tous les cas. Donc, en réalité, tu n'as pas le choix que d'accepter. Si tu acceptes, tu seras rétribué et récompensé. Si tu n'acceptes pas, tu seras puni ici par la tristesse et les soucis qui découlent du rejet du décret d'Allah. Il n'y a qu'à voir le kuffar pour comprendre ces choses-là et comparer avec un musulman. Combien de kafir, quand il est touché par un grand malheur, il se donne la mort. Il ne peut pas supporter. Et si Allah il lui facilite, il lui ouvre une porte du bien, il entre en islam. Hier, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Il a perdu sa mère, il est devenu musulman. D'autres, ils perdent des personnes proches qu'ils aiment énormément. Ils se suicident. Ils ne supportent pas la vie après lui. Amma al-muslim, il n'a pas ces choses-là. Muslim, tout ce qui lui arrive, il accepte. C'est Allah qui l'a décrété. Et le musulman, il ne perd pas ses proches définitivement. La rencontre, bi-idnillah, c'est dans le Jannah, avec ceux qu'il aime. Également, ce croyant, il prétend aimer Allah. Et celui qui aime sincèrement et véridiquement, il voit le bien dans tout ce que son bien-aimé lui fait. Et ça, c'est valable par rapport aux créatures. Alors, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Et le croyant, il agrée également, il accepte, car il sait que son agrément et sa satisfaction, c'est la cause pour qu'Allah soit satisfait de lui. Vous imaginez d'arriver à un degré qu'Allah soit satisfait de toi, pauvre créature. Parmi les moyens d'arriver à ça, c'est d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le serviteur, il ignore les conséquences des choses. Lui, il voit que la maladie, c'est un mal. Lakin, qu'est-ce qu'il en sait ? Que peut-être c'est un bien pour lui, de plusieurs points de vue. Car le serviteur, il ne voit que ce qu'il a entre les mains. Il ne connaît pas les conséquences des choses. Allah, il connaît tout. Donc c'est pour ça, il se soumet, il accepte. Également, son acceptation, c'est la cause de son bonheur et de sa joie dans ce bas monde. Et c'est son paradis dans cette vie avant le paradis de l'au-delà. C'est pour ça qu'ils disent l'acceptation des décrets d'Allah, c'est un paradis dans le bas monde avant le paradis de l'au-delà. Contrairement à celui qui rejette et qui est mécontent de ce que Allah décrète, il est dans un châtiment ici-bas avant le châtiment qui l'attend dans l'au-delà. Également, la satisfaction et l'acceptation des décrets d'Allah, c'est une cause d'avoir un cœur sain. C'est une cause d'avoir un cœur sain. Et Allah Azzajal a promis la sauvegarde à celui qui le rencontre avec un cœur sain. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Également, parmi les choses qui aident, c'est que ce malheur par lequel il est touché et cet événement douloureux, c'est un remède pour certaines maladies. Et l'homme doué de bon sens prend des maladies, prend des médicaments amers, car il espère la guérison à travers ses causes. Donc, c'est bénéfique également dans ce sens-là. Et en dernier, et ce n'est pas le dernier point que l'imam Ibn al-Qayyim a cité, Ibn al-Qayyim il a cité 21 points. Ajib hadra joulad. Wallahi, incroyable. Qui aide à voir le malheur par lequel tu es touché comme le bienfait par lequel tu es touché. Là, je citais en résumé quelques-uns, et je termine par celui-là car il est important également. C'est que l'acceptation du décret d'Allah aide le serviteur à avoir un bon comportement avec Allah et avec les créatures. Et ça, si on veut rien que ce point le détailler, ça peut prendre tout un cours. Rien que ce point. Car celui qui accepte les décrets d'Allah, il a un bon comportement avec Allah. Et ça, c'est évident. Mais ça l'aide également à avoir un bon comportement avec les créatures. Imagine, je t'ai fait un mauvais coup. Tu sais que c'est Allah qui l'a décrété. Donc, tu as de la peine par rapport à cette créature qui a fait ce mal et qui risque d'être châtiée pour Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça va nourrir de la vengeance et de la haine et du mauvais comportement chez toi. Et tu vas lui faire dua, qu'Allah le guide. C'est pour ça que le Nabi sallam, regardez à Ikhwa. Tout ce que les mécréants de Quraysh lui ont fait, tout ce que les gens de Taif lui ont fait, et d'autres tribus, et à chaque fois quand on lui demandait de faire dua contre eux, qu'est-ce qu'il disait ? Allahumma hdi thaqifan wa ati bihim muslimin. Ou Allah guide-les. Il demandait leur guider. Car il sait que ça, c'est le décret d'Allah. Et c'est des épreuves qu'Allah m'a prédestinées. Il accepte le décret d'Allah. Il fait les causes qu'Allah lui a légiférées afin de s'en sortir. Donc nous allons nous arrêter ici. Malheureusement, également, c'est l'heure de salat. والله المستعان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته